Les étapes de la méditation sur la respiration. Lorsque le Bouddha enseigne la méditation sur la respiration, il enseigne au total 16 étapes. Ce sont les instructions de méditation les plus détaillées dans le canon. Et la respiration est le sujet qu'il recommande hautement, le plus fréquemment. Parce que la respiration n'est pas seulement un lieu où l'esprit peut s'établir et développer la concentration, mais c'est aussi quelque chose que l'esprit peut analyser. C'est le lieu où toutes les visions pénétrantes nécessaires à l'éveil peuvent apparaître. Pendant que l'esprit a sati de la respiration, est en attitude d'alerte vis-à-vis de la respiration, et aussi conscient de la manière dont il est en relation avec la respiration. Dans les étapes ultérieures de la méditation sur la respiration, l'accent porte moins sur la respiration que sur l'esprit en relation avec la respiration. Dans les premières étapes, cependant, l'accent porte sur la respiration elle-même, sur l'utilisation de la respiration pour piéger l'esprit et l'amener au moment présent. Dans les deux premières étapes, vous vous occupez seulement de la respiration longue et de la respiration courte, en vous sensibilisant au ressenti de la respiration longue et courte. Avec la troisième étape, cependant, il y a un élément de volition. Vous vous entraînez, et la première chose que vous vous entraînez à faire, c'est d'être conscient du corps tout entier lorsque vous inspirez, conscient du corps tout entier lorsque vous expirez. Lorsque le Bouddha décrit les états de concentration, il n'utilise pas des images de concentration en un point unique. Il utilise des images de conscience de l'ensemble du corps. Lorsqu'une sensation de ravissement et de plaisir provient de la respiration, il vous dit de pétrir cette sensation de ravissement et de plaisir à travers le corps tout entier, de la même manière que vous pétririez un mélange d'eau et de farine pour faire de la pâte. Une autre image est celle du ravissement qui monte dans le corps et qui remplit le corps, comme une source d'eau fraîche qui monte de l'intérieur d'un lac, et qui remplit ainsi tout le lac de sa fraîcheur. Une autre image est celle de lotus dans un lac. Certains des lotus ne montent pas à la surface de l'eau, mais restent totalement immergés dans l'eau, saturés, de leurs racines jusqu'au bout de leurs pétales, par le calme et la fraîcheur de l'eau du lac. Il y a encore une autre image, celle d'une personne enveloppée d'un tissu blanc, totalement entourée par ce tissu blanc de la tête aux pieds, d'une manière telle que le corps tout entier de cette personne est recouvert par le tissu blanc. Toutes ces images sont des images d'une conscience du corps, dans son entier, d'une sensation de ravissement, de plaisir ou d'une conscience lumineuse qui remplit l'ensemble du corps. C'est sur cela que vous voulez travailler, lorsque vous commencez à connaître la respiration, parce que le type de conscience qui permet à la vision pénétrante d'apparaître n'est pas limité à un point unique. Lorsque vous êtes focalisé sur un seul point et que vous occultez tout le reste, cela laisse beaucoup de zones d'ombre dans l'esprit. Mais lorsque vous essayez d'obtenir une conscience plus globale, cela aide à éliminer les zones d'ombre. En d'autres termes, vous voulez être immergé dans la respiration, être conscient de la respiration tout autour de vous. Une des expressions utilisées pour ceci, kayagata sati, est sati immergé dans le corps. Le corps est saturé par la conscience elle-même est immergée dans le corps, est entourée par le corps. Donc, il ne s'agit pas d'être là-haut, en un point, disons dans la partie arrière de la tête, en train de regarder le reste du corps à partir de ce point, ou d'essayer de vous empêcher d'avoir conscience du reste du corps à partir de ce point de conscience. Vous devez avoir une conscience du corps tout entier, à 360 degrés, de façon à éliminer les zones d'ombre dans l'esprit. Une fois que vous avez cette sorte de conscience, vous travaillez à la maintenir, bien que le travail ne soit comparable à aucun autre type de travail. Vous travaillez à ne pas déplacer votre attention, à ne pas la laisser se contracter. Vous travaillez à ne pas prendre d'autres responsabilités. Avec le temps, cependant, ce travail devient de plus en plus naturel, plus comme une seconde nature. Vous vous sentez de plus en plus établi et chez vous. Lorsque l'esprit s'établit, son énergie nerveuse habituelle commence à se dissoudre. En réalité, le corps a besoin de moins en moins d'oxygène, parce que le niveau d'action de votre cerveau commence à se calmer, et donc la respiration devient de plus en plus raffinée. Elle peut même complètement s'arrêter, parce que tout l'oxygène dont vous avez besoin pénètre à travers les pores de votre peau. À ce stade, la respiration et votre conscience semblent s'être fondues l'une dans l'autre. Il est difficile de distinguer clairement entre les deux, et pour le moment, vous n'essayez pas de le faire. Laissez la conscience et la respiration s'interpénétrer, devenir une. Vous devez permettre à cette conscience, à cette sensation d'unité, de devenir bien ferme. Autrement, elle est facilement détruite, parce que l'esprit a tendance à se contracter. Dès que nous pensons, nous contractons le champ d'énergie dans certaines parties du corps, pour les exclure de notre conscience, et c'est la raison pour laquelle le corps se tend chaque fois qu'une pensée survient. Cette partie-ci du corps se tend afin que vous puissiez penser cette pensée-là. Cette partie-là du corps se tend afin que vous puissiez penser cette pensée-ci. Comme cela, alternativement. Ce n'est pas du tout surprenant que le simple processus de la pensée exige tant du corps. D'après certains traités médicaux chinois, une personne qui effectue un travail mental a tendance à utiliser de l'énergie à un rythme 3 fois plus élevé qu'une personne dont le travail est totalement physique. Ceci est dû au fait que penser implique une tension dans le corps, et en particulier, les pensées qui partent en direction du passé ou du futur doivent créer des mondes complets afin de pouvoir les habiter. Lorsque nous concentrons l'esprit, nous pensons différemment. Lors des premières étapes, nous pensons encore, mais nous pensons uniquement au moment présent. Nous observons uniquement le moment présent. Nous sommes en attitude d'alerte et avons sati au sujet de ce qui se passe ici, afin de ne pas être obligés de créer des mondes passés ou futurs. Ceci impose moins de stress au corps. Afin de maintenir cette focalisation présente et ne pas glisser pour retourner à vos vieilles habitudes, il faut que vous conserviez une conscience aussi vaste que possible. C'est ce qui vous maintient enraciné dans le moment présent, vos doigts et vos orteils inclus. Lorsque votre conscience reste vaste, cela empêche le type de contraction qui permet à l'esprit de s'esquiver pour poursuivre des pensées relatives au passé et au futur. Vous restez là, habitant complètement le présent. Le besoin de penser s'atténue de plus en plus. Lorsque de moins en moins de pensées interfèrent avec le flux de l'énergie respiratoire, une sensation de plénitude se développe à travers le corps. Les textes parlent de cette plénitude comme du ravissement, et de la sensation d'aise qui l'accompagne comme du plaisir. Vous laissez cette sensation de plénitude agréable baigner le corps, et vous continuez à maintenir votre focalisation sur l'énergie respiratoire, même si elle est totalement arrêtée. Finalement, et vous n'avez pas besoin de précipiter les choses, il arrive un moment où le corps et l'esprit en ont assez du ravissement et du bien-être, et vous pouvez les laisser décroître. Ou bien, il se peut parfois que le ravissement devienne trop impérieux. Dans ce cas, vous essayez d'affiner votre conscience de la respiration de façon à ce qu'elle ne soit plus sous l'influence du ravissement, et vous passez à un niveau de bien-être total. Alors, même le bien-être, la sensation de s'imprégner du plaisir, décroît, vous laissant dans le calme total. Après vous être établi dans le calme, vous pouvez commencer à rechercher la ligne de séparation entre la conscience et la respiration. Jusqu'à ce stade, vous avez manipulé la respiration, essayant de devenir de plus en plus sensible à ce qui est confortable et à ce qui ne l'est pas dans la respiration, de façon à ce que votre manipulation devienne de plus en plus subtile, jusqu'au stade où vous pouvez abandonner la manipulation et être seulement avec la respiration. Ceci permet à la respiration de devenir de plus en plus raffinée, jusqu'à ce qu'elle soit absolument calme. Lorsque les choses sont vraiment fermes, vraiment calmes, votre conscience et l'objet de votre conscience se séparent naturellement, comme les éléments chimiques dans une suspension que l'on a laissée reposer. Une fois que la conscience s'est séparée, vous pouvez commencer à manipuler directement les facteurs de l'esprit, les sensations et les perceptions qui façonnent votre conscience. Vous pouvez les observer lorsqu'elles le font, parce que maintenant, la respiration est à l'arrière-plan. C'est comme se régler sur une station de radio. Tant qu'il y a des parasites, tant que vous n'êtes pas exactement réglé sur la fréquence de la station, vous ne pouvez pas entendre les subtilités du signal. Mais une fois que vous êtes exactement sur la bonne fréquence, les parasites disparaissent et toutes les subtilités apparaissent clairement. Lorsque vous vous êtes réglé sur l'esprit, vous pouvez voir les subtilités des sensations et des perceptions lorsqu'elles se déplacent. Vous pouvez voir les résultats qu'elles donnent, l'impact qu'elles ont sur votre conscience, et après un certain temps, vous avez la sensation que plus l'impact est raffiné, mieux c'est. Donc, vous leur permettez de se calmer. Lorsqu'elles se sont calmées, ce qui vous reste, c'est la conscience elle-même. Mais même cette conscience connaît des hauts et des bas. Et pour les dépasser, le Bouddha vous les fait manipuler. Tout comme vous avez manipulé la respiration et les facteurs mentaux des sensations et des perceptions. Le texte parle de rendre l'esprit joyeux, de stabiliser l'esprit et de libérer l'esprit. En d'autres termes, lorsque vous vous habituez de plus en plus aux différentes étapes de la concentration, vous commencez à avoir une idée du type de concentration dont votre conscience a besoin dans le moment présent. Si elle semble instable, que pouvez-vous faire pour la stabiliser? Comment changez-vous votre perception de la respiration? Ou comment ajustez-vous votre focalisation pour rendre l'esprit plus ferme? Lorsque la méditation commence à s'assécher, que pouvez-vous faire pour rendre l'esprit joyeux? Et lorsque vous passez d'une étape de concentration à la suivante, de quoi lâchez-vous prise exactement? Qui a franchi l'esprit d'un niveau de concentration plus faible et lui permet de s'établir à un niveau de concentration plus fort? Lorsque le Bouddha parle de libérer l'esprit, à ce stade de la pratique, il ne parle pas de l'affranchissement ultime. Il parle du type d'affranchissement qui se produit lorsque vous lâchez prise, disons de la pensée dirigée, et de l'évaluation du premier jhana, qui vous libère du fardeau de ces facteurs lorsque vous entrez dans le deuxième jhana, et ainsi de suite à travers les différents niveaux de concentration. Lorsque vous faites ceci, vous commencez à voir combien ces niveaux de concentration sont voulus. C'est important. La vision pénétrante peut survenir lorsque vous êtes concentré, lorsque vous passez d'une étape à la suivante, lorsque vous observez du coin de l'œil de votre esprit ce que vous faites pour passer d'une manière de faire l'expérience de la respiration à la manière suivante, d'un niveau de fermeté au niveau suivant. Et vous voyez combien ceci constitue un phénomène produit. Cela conduit finalement aux étapes de la méditation sur la respiration associées à la vision pénétrante. D'abord, il y a la vision pénétrante de l'inconstance, à la fois dans la respiration, mais de façon encore plus importante dans l'esprit, lorsque vous voyez que même ces niveaux de concentration stables, rafraîchissants, sont voulus. Sous-jacente à toute cette détente rafraîchissante, toute cette stabilité, il y a un vouloir, vouloir, vouloir répéter, qui vise à maintenir cet état de concentration. Il y a là un élément de pénibilité. La vision pénétrante dans l'inconstance ou l'impermanence a moins à voir avec la manière dont vous consommez les expériences qu'avec la manière dont vous les produisez. Vous voyez tout l'effort qu'implique la production d'un type particulier d'expérience et la question devient alors « cela en vaut-il la peine ? Cela n'est-il pas pénible d'être obligé de faire et refaire ces expériences tout le temps ?» Alors le problème devient « qu'allez-vous faire pour lâcher prise de ce fardeau ?» Si vous ne fabriquez pas ces états de concentration, votre seul choix consiste-t-il à retourner à la fabrication d'autres sortes d'expériences? Ou bien est-il possible de ne fabriquer aucune expérience du tout? Toutes nos expériences normales, moment après moment, soit au cours de la concentration, soit en dehors, possèdent un élément d'intention, un élément de volonté. Et maintenant, vous en êtes arrivé au point où cet élément de volonté, cet élément d'intention commence à se révéler, être un fardeau évident. Particulièrement lorsque vous regardez autour de vous et que vous vous demandez « Pour qui est-ce que je produis cela ? Qui consomme ceci exactement ?» Vous en venez à voir que votre sens de qui vous êtes, de qui est ce consommateur, est difficile à définir avec précision, parce que tout cela est entièrement constitué par les agrégats, et que les agrégats eux-mêmes sont inconstants, stressants et pas soi. Ce consommateur est également quelque chose de produit. Ceci donne naissance à une qualité que les textes appellent « nibbida », que l'on peut traduire par « désenchantement » ou « désillusion ». Parfois, la traduction est plus forte, « révulsion ». Dans tous les cas, c'est le sentiment que vous en avez assez. Vous vous sentez piégé par ce processus. Vous n'y trouvez plus aucune satisfaction. Vous voulez trouver un moyen d'en sortir. Donc, vous vous focalisez sur le lâcher-prise. D'après les textes, il y a d'abord une focalisation sur la cessation de la passion, puis une focalisation sur la cessation, puis finalement une focalisation sur le renoncement total. En d'autres termes, au cours de l'étape finale, vous lâchez prise de tout type de fer, de tout type de volition, du producteur, du consommateur, de l'observateur, et même des perceptions et des fabrications mentales qui constituent la voix. Lorsque les facteurs de la voix ont rempli leur rôle, vous pouvez également les abandonner. Tout ceci se déroule exactement dans la respiration, à l'endroit où l'esprit et le corps se rencontrent dans la respiration. C'est la raison pour laquelle le Bouddha ne vous fait jamais totalement abandonner la respiration comme thème de méditation. Le progrès réalisé le long de la voie provient simplement du fait de rester ici même et de devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe ici même, tout autour de vous. Vous développez une conscience plus englobante, non seulement englobante dans le corps, mais aussi englobante dans l'esprit. Vous voyez à travers les zones d'ombre qui vous permettaient de consommer les expériences inconsciemment, en oubliant le fait que vous deviez les produire. C'est comme regarder un film, deux heures de points lumineux qui apparaissent sur un écran. Et plus tard, voir un documentaire sur la manière dont on a fait le film. Vous vous rendez compte que des mois, parfois des années de travail y ont été consacrés, et la question devient, cela en valait-il la peine? Quelques brèves heures de plaisir vides, et ensuite vous l'oubliez, malgré tout le travail, toute la souffrance qu'il a fallu pour le réaliser. Donc, lorsque vous regardez toutes vos expériences de la même manière, en voyant tous les efforts investis dans leur production, et que vous vous demandez si cela en vaut la peine, c'est alors que vous ressentez vraiment la désillusion, le désenchantement. C'est alors que vous pouvez réellement lâcher prise. Vous lâchez prise non seulement des perceptions ou des sensations lorsqu'elles vont et viennent, mais aussi de l'acte de création de ces choses. Vous voyez que cet acte de création est omniprésent, qu'il concerne toutes vos expériences. Vous êtes toujours en train de créer, soit habilement, soit de façon malhabile. Il y a une production constante chaque fois qu'il y a une intention, chaque fois qu'il y a un choix dans l'esprit. C'est ce qui commence à apparaître oppressant. C'est ce qui finalement vous incite à lâcher prise. Vous lâchez prise de la production, vous lâchez prise de la création, et le lâcher prise ouvre réellement les choses. L'esprit s'ouvre entièrement à une autre dimension, une dimension qui n'est pas fabriquée, qui n'est pas créée, où il n'y a ni apparition ni disparition. Et cela aussi, on peut le toucher ici même, bien qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de sensation de respiration, pas de sensation du corps, pas de sensation de l'esprit, en tant que consommateur ou producteur qui fonctionne, qui crée. Lorsque le Bouddha en parle, tous les mots qu'il emploie sont des analogies, et toutes ces analogies concernent la liberté. C'est à peu près tout ce qui peut en être dit lorsque vous essayez de le décrire, mais on peut dire beaucoup de choses au sujet de la manière d'y arriver. C'est la raison pour laquelle les enseignements du Bouddha sont si détaillés. Il donne beaucoup de détails sur la manière d'arriver à ce stade, en soulignant toutes les étapes. Même si vous voulez savoir à quoi ressemble le but, n'allez pas chercher des descriptions détaillées. Suivez simplement les étapes et vous le saurez par vous-même, ici même.